6h, 9h le samedi. Le talk.
Globalement, l'OFS indique que si les comportements observés en 2018 restent identiques dans les prochaines années, 2 mariages sur 5 pourraient se terminer un jour par un divorce.
Donc on parle des conditions fiscales des couples mariés et des couples non mariés. On voit que l'avantage à l'une ou l'autre catégorie de couple dépend de 2 facteurs principalement. D'abord la répartition de revenus entre les 2 conjoints. Plus cette répartition entre ce que gagnent l'un et l'autre est égalitaire, plus les couples mariés auront tendance à y perdre par rapport aux autres.
Il n'y a plus une nécessité absolument d'être marié pour vivre en couple. On peut très bien vivre comme on le souhaite.
Le mariage reste la forme de couple la plus importante, mais est loin d'être la seule forme de couple.
Des divorces en hausse, des mariages en baisse. Même si elle reste minoritaire, l'union libre séduit toujours plus de Suisses. Mais qui précisément? Comment justifie-t-il ce refus du mariage? L'union libre offre-t-elle vraiment plus de liberté, d'égalité et de bien-être aux partenaires? La vie de famille change-t-elle la donne? On va faire le point ce matin sur l'union libre avec nos 2 chroniqueurs, Virginie Langeroc.
Bonjour.
Didier Bonvin.
Bonjour Anne.
Et avec notre invité Valériane Rizer. Bonjour.
Bonjour.
Valériane Rizer, vous êtes docteur en sciences sociales. Vous travaillez au sein du FORCE, le centre de compétences suisse en sciences sociales. Vos recherches portent tout particulièrement sur les parcours de vie, la famille et les périodes de transition familiale. Et vous êtes l'auteur, avec Jean-Marie Le Goff, d'une étude portant sur, je cite, « Union libre, égalité et bien-être en Suisse », parue il y a quelques mois. Alors avant d'aborder toutes ces questions-là en détail, on va commencer par définir les termes avec vous, Virginie Langeroc. D'où nous vient l'union libre?
Alors, il faut dire que l'union libre a toujours existé, évidemment de façon discrète, voire assez marginale. Depuis les Romains, la norme, c'est évidemment le mariage comme moyen de transmettre le patrimoine et l'héritage. Alors, il est où l'amour là-dedans? Eh bien, c'est justement pour réconcilier union et amour qu'est né le terme union libre. C'était à la fin du 19e siècle, au moment justement où émergent l'anarchisme, le féminisme, les débuts du socialisme aussi. Tous ces courants de pensée vont secouer l'institution du mariage et de la famille qui était un peu figée, il faut bien le dire. Le mariage était un peu vécu comme une servitude faite d'obligations dans lequel l'amour n'avait pas la première place. On l'entend par exemple dans les mots de George Sand, connu pour ses romans mais aussi pour la liberté de sa vie amoureuse. On est au milieu du 19e siècle et elle l'écrit « Le mariage est toujours, selon moi, une des plus barbares institutions que la société ait ébauchée. Je ne doute pas qu'il soit aboli. Si l'espèce humaine fait quelques progrès vers la justice et la raison, un lien plus humain et non moins sacré remplacera celui-là et sera assuré l'existence des enfants qui naîtront d'un homme et d'une femme sans enchaîner à jamais la liberté de l'un et de l'autre. » On voit bien donc la vision un peu négative qu'elle a du mariage. Donc c'est un mouvement pour la liberté amoureuse qui naît à la fin du 19e siècle, qui vient défendre la liberté de vivre en couple, une union choisie et sans intervention ni de l'Église ni de l'État.
Oui, ce qui était quand même très révolutionnaire pour l'époque.
Effectivement, c'est vraiment avant-gardiste pour l'époque, d'autant que les défenseurs de l'union libre vantent l'amour, mais aussi le plaisir pour les hommes comme pour les femmes. On est bien loin de la morale très corsetée du 19e siècle, surtout pour les femmes. Alors évidemment, c'est pas très très bien accueilli, on s'en doute, certains s'insurgent, disons que l'union libre, ça va entraîner les plus graves désordres moraux, ça va détruire la famille. L'union libre, du coup, va rester longtemps assez marginale, mais elle va petit à petit s'inviter. En 1907, le français Léon Blum, qui était président du conseil, fait des premières éloges de l'union libre, alors de façon mesurée, il se prononce pour une sorte de période d'essai avant le mariage, ça sera les fiançailles. Et puis un autre français qui a beaucoup défendu l'union libre, c'est Élisée Reclus, qui était écrivain, géographe, libertaire, en fait précurseur. Lui-même a vécu sans se marier avec sa dernière compagne avec laquelle il a passé 30 ans à la fin de sa vie.
Et puis il y a le concubinage.
Alors le concubinage, ça implique juste qu'on vive sous le même toit. On peut donc être en union libre et vivre chacun chez soi.
Valériane Rizer, vous êtes d'accord avec ces définitions?
Oui, alors oui, ça matche un peu ce qu'on fait aussi dans la recherche. Ça veut dire qu'on distingue les gens qui cohabitent, là, comme vous avez mentionné. Et puis l'union libre, alors ce sera des gens qui vont être ensemble, mais qui vont avoir deux appartements. Ce qu'on voit aussi en Suisse, c'est qu'effectivement la cohabitation, c'est quelque chose de très compliqué, d'autant plus que historiquement, jusque vers 1874, en fait, la réglementation, la régulation du mariage, c'est quelque chose qui est de ce qui est quelque chose du ressort des cantons. Mmh. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a autant de lois de mariage que de cantons. Et il y a des grandes disparités entre les cantons catholiques et les cantons protestants. Donc, tout ça, ça crée vraiment beaucoup d'hétérogénéité. Et il faut entendre 1874 pour qu'il y ait une réglementation unique du mariage en Suisse, en fait.
Vous-même, à la notion d'union libre, je crois que vous préférez celle de cohabitant. Pourquoi ?
Alors nous, c'est vrai, on parle souvent de cohabitant parce que l'union libre, ce serait plutôt lié à une littérature qui traite des gens qui sont ensemble mais qui ont des appartements différents. Donc finalement, c'est une autre catégorie de la population que les gens qui cohabitent, qui vivent ensemble sans être mariés.
Alors dressons l'état des lieux avec vous de cette cohabitation en Suisse. Combien de personnes exactement sont concernées ?
Alors, la majeure partie des gens en Suisse sont concernés à un moment dans leur parcours de vie par la cohabitation, en ce sens que finalement, pour des femmes nées dans les années 60, 80% d'entre elles vont commencer la vie en couple par la cohabitation. C'était pas le cas pour les femmes nées en 1945. Pour les femmes nées en 1945, uniquement 20% d'entre elles vont commencer la vie de couple par une union libre sans se marier. Donc on voit que la cohabitation se porte très bien en Suisse à certaines périodes du parcours de vie.
Et c'est comme une étape finalement.
Voilà, ouais, souvent c'est une étape et en cela il y a un très haut taux de cohabitation en Suisse, ce qui fait que c'est assez similaire en fait au taux de cohabitation dans les autres pays d'Europe. Ce qui nous distingue vraiment, nous la Suisse, par rapport aux autres pays d'Europe et surtout de la Scandinavie, c'est qu'on a un très faible taux de naissance hors mariage.
Donc ça veut dire que on se marie puis après on fait les enfants, donc finalement les chiffres sur l'union libre sont totalement troublés à partir de là.
Voilà, oui.
Vous parliez tout à l'heure de cette disparité entre les cantons concernant le mariage. Est-ce qu'on voit aussi des disparités flagrantes entre les cantons concernant cette tendance aux unions libres ?
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en Suisse romande, on a un plus haut taux de naissance hors mariage qu'en Suisse allemande. Si on regarde la moyenne suisse des naissances hors mariage, c'est 25%. Donc, c'est vraiment en deçà de la France qui se trouve à 60%. Ça, en deçà de l'Italie à 28%, en deçà de l'Espagne aussi. Donc en Suisse, finalement, on a un taux de naissance hors mariage de 25%, mais en Suisse romande, ce serait plutôt près de 30% de naissance hors mariage, et en Suisse allemande, plutôt autour de 20% de naissance hors mariage.
Et comment expliquez-vous, Valériane Rieser, une telle différence par rapport aux pays voisins ?
Alors, la Suisse est très conservateur sur les questions de la famille. Il y a une idée que la famille, c'est quelque chose de privé. Donc, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle. Et donc, l'État ne doit pas se mêler des affaires familiales et va promouvoir le mariage, finalement, comme protection pour la famille. Donc, le mariage est vraiment vu comme une protection de la femme, de la femme, parce que souvent, c'est la femme qui va arrêter de travailler au moment où il va y avoir des enfants. Et c'est cette vision-là aussi qui va favoriser le mariage.
Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu le profil des personnes particulièrement concernées par l'union libre en Suisse, âge, revenu moyen ?
Alors en Suisse, d'une part, on voit des disparités entre la ville et la campagne. En ville, dans les milieux urbains, on va avoir plus de naissances hors mariage, par exemple, qu'en campagne. Ça va être lié à des formes de pression sociale qui vont être probablement moins importantes en ville qu'en campagne, ou le sentiment d'appartenance à une communauté qui véhicule des valeurs plus traditionnelles va être plus forte. Et d'autre part, c'est vrai que nous, on voit dans nos recherches basées sur l'interview d'un grand nombre de personnes qui résident en Suisse, c'est l'enquête Vivre en Suisse. Donc les gens qui cohabitent et qui ont des enfants ont tendance à avoir des valeurs plus égalitaires que les gens qui choisissent le mariage.
Alors l'union libre, on le comprend, c'est une pratique qui a mis du temps à s'imposer dans les mentalités en Suisse par rapport au mariage. Didier Bonvin, vous avez parcouru quelques archives de la RTS sur ce sujet, avec quel constat ?
Eh bien que le modèle patriarcal du mariage, loin de l'union libre, était bien ancré dans les lois et dans les mœurs de l'époque. Voilà ce qu'on lisait dans le Code civil de 1972, article 160. Les féministes peuvent se boucher les oreilles. Je cite: le mari est le chef de l'union conjugale. Il choisit la demeure commune et pourvoit convenablement à l'entretien de sa femme et de ses enfants. L'entretien, donc un peu comme pour la voiture, on dirait. Et voilà ce qu'en pense une femme de l'époque, interviewée dans un temps présent de 1972.
Article 160. Le mari est le chef de l'union conjugale.
Est-ce que vous trouvez que c'est juste ?
Oui, dans un sens.
Mais pourquoi c'est le mari qui doit être le chef, selon vous ?
Parce que jusqu'à présent, il l'a été. Il était le représentant d'une union conjugale.
Voilà, c'est normal, puisque ça a toujours été comme ça. Une bonne philosophie, ce bon sens conservateur est aussi celui d'un officier d'état civil. Toujours en 1972, rappelons que les femmes venaient d'avoir le droit de vote en Suisse.
Le mouvement de libération de la femme, par exemple, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit ?
Ah, bien, alors, la libération de la femme, bien évidemment... Moi, je prétends que la femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. Elle sera absolument libre. Personne ne l'oblige à se marier. Mais on ne peut pas quand même modifier le mariage, enfin, disons, la loi sur le mariage, en arrivant, par exemple, à lui donner sa totale liberté comme femme mariée.
Cet officier d'état civil a dû passer à côté de la libération sexuelle de 1969, probablement. Écoutez ce que disait Suzanne Brugger, journaliste danoise, lors d'un débat RTS en 1969.
Avant, c'était simple, parce que le mariage consistait en un homme et un objet. Mais maintenant, il y a deux personnes. La femme est devenue autonome, indépendante, souvent aussi sur le plan économique. Et c'est une situation absolument nouvelle. Et c'est-à-dire le rôle des sexes ont changé, ils sont devenus beaucoup plus nuancés. Et pour ça, il faut chercher des structures familiales ou une manière de vivre qui est beaucoup plus nuancée. Aussi.
Voilà, un modèle nuancé, donc, depuis la révolution sexuelle, on est à la recherche d'un nouveau modèle entre l'union et le mariage, comme l'explique le psychologue Jacques Mousseau. C'était un sujet, on remonte toujours le temps de 1968 sur la libération sexuelle.
La révolution sexuelle, ce n'est pas la révolution dans les faits de faire n'importe quoi, mais c'est le fait que, à notre époque, actuellement, pendant ces années très... très passionnante que nous vivons, les rapports de l'homme et de la femme qui étaient conditionnés ou qui étaient régis d'une certaine façon sont en train de se déstructurer et se restructureront autrement.
Voilà, la question reste ouverte. En quelques décennies, a-t-on trouvé, restructuré un nouveau modèle de couple ? Je me pose toujours la question, et Valérie Andrisa, je vous pose la question. A-t-on retrouvé un nouveau modèle de couple ? Je vous vois surprise peut-être par les archives aussi, tout ce qu'on a parcouru.
Oui, oui. Non, c'est vrai. Alors l'évolution, elle a été très rapide. Hein, si on voit, je veux dire, actuellement, il y a quand même la cohabitation, elle est rentrée dans quand même relativement bien rentrée dans les mœurs, et la naissance hors mariage aussi. Mais on voit, voilà, cette évolution qui a été rapide.
Mmh. C'est la société patriarcale, en fait, qui s'est délitée et qui permet à l'union libre de s'imposer davantage, vous diriez ?
C'est une plus d'égalité entre hommes et femmes qui fait que finalement les choix ont un peu évolué aussi et finalement les gens se retrouvent plus forcément dans ce cadre très rigide qu'est le mariage et préfèrent finalement un cadre un peu plus léger que propose la cohabitation. Cependant, faut voir quand même que si les gens cohabitent et qu'ils ont des enfants, ils doivent être ces gens doivent être assez proactifs pour pouvoir avoir les mêmes droits que les couples mariés avec enfants. Je pense notamment à l'autorité parentale conjointe et à la transmission du nom du père à l'enfant.
Oui, c'est cela, parce que ça devient tout de même compliqué, hein, ces choses-là, quand on est en union libre, hein, c'est beaucoup moins cadré. En fait.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment au couple de prendre les décisions, par exemple de faire un contrat de concubinage afin de réguler la vie commune, surtout lorsqu'il y a des enfants.
Alors pour tenter d'expliquer un petit peu ce choix de vie, hein, de l'union libre, quelles peuvent en être les causes? Est-ce que c'est l'avantage fiscal, hein? On sait en Suisse que ne pas être marié, bon, c'est souvent plus avantageux que de l'être. C'est ça qui expliquerait ce choix croissant aussi?
Alors on avait fait des entretiens qualitatifs et qui montraient que les gens étaient assez rationnels quand ils voulaient se marier. Donc c'était surtout beaucoup lié à la transmission du nom du père à l'enfant. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, 2013, c'était pas possible pour un père non marié de donner son nom à son enfant. Donc ça, ça jouait un grand rôle. Et puis, par la suite, c'est ce cadre un peu rigide du mariage qui convient plus à des gens qui ont une vision plus égalitaire au sein du couple, où les deux partenaires sont engagés à égalité sur le monde professionnel.
Mmh. Et la santé, peut-être. Est-ce que la santé pourrait être une cause? Dites-moi, Didier Bonvin.
Alors, j'ai un peu parcouru les études sur le mariage et la santé. On a plusieurs études, des études américaines de fin 2015 qui disent que le mariage rendrait gros, donc une étude sociologique américaine, au pays des gros, voilà, qui annonce que ça rend simplement plus obèse. Le résultat, les étudiants du professeur Richard Allen Mieck ont trouvé un lien entre mariage et prise de poids. Bon, on est aux États-Unis, c'est aussi le pays de la malbouffe. Autre résultat annexe de cette étude, devenir parent doublerait le risque d'obésité.
Mais pourquoi alors?
Alors, il semblerait que les personnes qui se marient avant la fin de leurs études s'adaptent moins bien aux changements de la vie de famille, font moins de sport et changent leur alimentation. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est contredit par d'autres études qui voient plutôt des bienfaits au mariage. Moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires, moins de dépression pour les mariés. Donc, c'est bon pour tout, il paraît. Alors, peut-être que notre invitée Valérie Anne-Rieser va nous aider à répondre à cette question cruciale. Se marier, c'est bon ou mauvais pour la santé?
Alors, d'après une étude de 2017, le mariage est bon surtout pour votre bien-être, hein, dans le sens où le mariage, ça reste une valeur très importante pour les individus. C'est montrer qu'on a un succès dans sa vie, qu'on a réussi sa vie. Et donc, du coup, pour le bien-être, ça a un impact vraiment positif pour la santé physique et pour la santé mentale. Finalement, c'est les résultats, comme vous l'avez dit, sont assez mixtes. Et finalement, sur la base des données suisses, alors, il semblerait que non, le mariage ne soit pas forcément bénéfique pour votre santé.
Valérie Anne-Rieser, juste une question. C'est le cœur de votre étude, hein, menée avec Jean-Marie Le Goff, c'est de montrer que l'union libre ne rend pas forcément heureux. C'est même plutôt l'inverse. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Alors, on voit que les gens qui cohabitent et qui ont des enfants, c'est des couples plus égalitaires avec des gens qui sont impliqués à des taux assez élevés sur le marché de l'emploi. Donc, ça génère aussi pas mal de conflits pour concilier la vie familiale et la vie domestique, ce qui est assez complexe. Et c'est vrai que les femmes, d'après notre étude, on paye le prix fort, c'est-à-dire qu'elles auraient beaucoup de difficultés à concilier le travail domestique et le travail professionnel, et que finalement cette tension entre ces deux sphères de vie engendrait plus de conflits au sein du couple et aussi moins de bien-être.
Donc ça veut dire qu'ils partent avec des valeurs plus égalitaires, mais qu'une fois que les enfants arrivent, et bien là c'est que tout change, finalement les vieux réflexes réapparaissent et les femmes sont finalement plus surchargées que les hommes.
Oui, alors oui, mais c'est vrai qu'il y a tout le contexte suisse qui ne va pas forcément aider, dans la mesure où on n'a pas de congé paternité, on n'a pas de congé parental. Donc c'est vrai que la maternité repose beaucoup sur les épaules des femmes. Et donc du coup, durant un congé maternité qui est quand même relativement court en comparaison à des pays scandinaves, la femme va prendre en charge pas mal de choses de la sphère du domestique. Et au moment où elle va reprendre son travail, effectivement, comme monsieur n'est pas encourager finalement à rester à la maison avec un congé paternité, à s'occuper aussi de l'enfant, finalement des vieux réflexes se recristallisent et on retombe. Et pour garder cette égalité, ça provoque des tensions dans le couple.
Oui, hein. Oui, donc vous n'êtes pas en train de nous faire l'éloge forcément du mariage, mais plutôt de dire que le contexte n'aide pas tellement à rendre l'union libre plus simple pour chacun des partenaires. Qui dit rejet du mariage, Virginie Langeroc, ne dit cependant pas rejet de la célébration de l'union, hein.
Alors effectivement, on célèbre aussi sans se marier. C'est d'autant plus fréquent en Suisse qu'il y a de plus en plus de
de couples mixtes qui ne vont pas se marier parce que tout simplement ils n'ont pas la même religion et qui vont donc opter pour des cérémonies d'engagement laïque avec les mêmes ingrédients souvent que pour le mariage, invités, discours, échange d'alliances, etc. Mais de façon peut-être plus personnelle. Par exemple, j'avais lu dans le temps qu'un couple mixte japonais et suisse était habillé en kimono et puis avait observé un rite shinto avec échange de coupes de saké. Alors quand on passe pas par l'église et qu'on ne se sent pas satisfait d'un mariage civil qui peut être très rapide, c'est une façon de composer en fait sa propre cérémonie, une façon de dire on se marie pas mais on va quand même marquer le coup et puis offrir à la famille et à soi-même un moment inoubliable. C'est important parce que le rite correspond à un besoin fondamental chez l'être humain qui assure le passage d'une étape de la vie à l'autre dans des bonnes conditions. Et les gens découvrent que la religion évidemment n'a pas le monopole de tout ça, que chacun peut organiser son propre rite d'union qui ait du sens et qui soit pas forcément anti-religieux, même si ça se fait en dehors de l'église.
Oui, c'est très symbolique en fait.
Absolument. Alors les gens veulent du sens toujours, que ça soit de l'émotion, des choses inoubliables. Il y a des choses invraisemblables. Certains peuvent arriver en moto, à d'autres chameaux, en hélicoptère. D'autres vont planter un arbre, un olivier. Voilà, toujours dans le symbole. Ils vont aller sur une plage, sur le pont d'un bateau, au pied d'un très vieil arbre, avec toujours l'envie de vivre un moment très fort.
Ça coûte combien tout ça, Valérie? C'est pas donné, j'imagine, hein?
À peu près dans les 50 000 francs, mais c'est, je pense que c'est à peu
pour
près
le
mariage. Pour si on réunit une petite centaine de personnes, voilà. Mais quand on aime, on ne compte pas.
Oui, voilà. Réaction, peut-être, Valérie-Anne Rizer.
Disons qu'on voit qu'avec ces rituels, il y a toujours cette idée de la mise en scène du couple, la mise en scène de son identité, de l'histoire de la création du couple. Et que finalement, derrière ces cérémonies, on peut se dire, est-ce qu'elles sont vraiment aussi individualistes que ça? Dans le sens, est-ce que finalement, ces cérémonies ne répondent pas toujours un petit peu au même schéma? Et que finalement, une fois on va faire un lâcher de ballon, mais une fois une lâcher de lanterne, une fois un lâcher de colombe, et que finalement, dans ce rite... possède toujours un petit peu le même schéma. Donc je pense que d'un côté les organisateurs de ces événements parlent vraiment qu'on va individualiser la cérémonie, alors que finalement peut-être c'est quand même quelque chose, un schéma qui est quand même relativement rodé, mais qui répond aux besoins de l'individu d'avoir du rite. Hein.
De marquer le coup aussi, et de faire couple, c'est-à-dire que c'est peut-être la notion même de couple qui pose problème. Hein. Quand est-ce que ça commence? Comment le définir? Vous-même, Valérie-Anne Rizer, sur quel avenir est-ce que vous pariez pour ce couple des générations à venir? Est-ce que vous voyez toujours plus d'union libre ou bien un retour du mariage?
Alors, si on se base sur les études qui sont faites un peu en Europe, on voit que c'est toujours très important pour les gens de se marier, justement parce que ce que vous avez mentionné, Virginie, c'est que c'est important d'avoir un couple, c'est important de mettre cette mise en scène du couple et de faire un mariage. Maintenant, comme le mariage ne légitime plus la vie en commun, le mariage va arriver à d'autres périodes du parcours de vie. Donc, on va plutôt... introduire ses enfants aussi dans la cérémonie de couple. Le mariage va arriver plus tard dans le parcours de vie, mais au vu des études qu'on a maintenant, on peut pas dire qu'il y aura une disparition du mariage. Ce sera toujours quelque chose d'important parce que ça montre le succès des individus, ça montre que les individus ont réussi dans leur vie, c'est une mise en scène de leur bonheur.
Oui, c'est vécu comme cela en tout cas. Merci beaucoup Valérie-Anne Rizer, docteur en sciences sociales, chercheuse au Centre de compétences suisses en sciences sociales. Donc, celles et ceux qui souhaitent lire en détail votre étude menée sur ce sujet de l'union libre, égalité et bien-être peuvent la trouver en ligne sur le site lives-nccr.ch. Merci à vous, Virginie Langeroc et Didier Bonvin. Bon week-end en couple libre.
Hein, bon week-end.
Merci.
Avec des
bon week-end.